Radio Okapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Comprendre la facture normalisée, résoudre les difficultés techniques et accompagner les contribuables, c'est l'objectif des cliniques fiscales organisées depuis hier par la Direction générale des impôts au Centre culturel de Kinshasa à toutes les entreprises assujetties à la TVA. Les Nations Unies alertent sur une flambée épidémique d'une ampleur sans précédent dans l'est du pays. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3700 cas confirmés ont déjà été enregistrés au 30 juillet pour près de 1600 décès. Le débat autour du dialogue national inclusif continue d'alimenter les réactions en RDC. Annoncé le 17 juillet dernier par les responsables des principales confessions religieuses du pays à l'issue de leur rencontre avec les chefs de l'État, depuis cette annonce, plusieurs acteurs sociopolitiques ont exprimé leur soutien à cette initiative. Cette question a été largement abordée lors de l'émission Dialogue entre Congolais diffusée hier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de la paix. Au centre culturel de Kinshasa, les contribuables se succèdent depuis mardi pour obtenir des réponses à leurs préoccupations sur la facture normalisée, fonctionnement du dispositif, difficultés techniques, homologation des équipements. Les interrogations sont nombreuses. Pour accompagner les entreprises assujetties à la TVA, la Direction générale des impôts tient des cliniques fiscales durant 3 jours. Une occasion pour les opérateurs économiques de mieux comprendre les exigences du système et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le terrain. Malgré cet accompagnement, plusieurs défis demeurent. Le constat de Jocelyne Moussaoponde dans ce reportage.
À ces cliniques fiscales, les préoccupations sont variées, compréhension de certaines rubriques de la facture normalisée, mais aussi difficultés techniques. Sur place, une responsable de la facturation dans un cabinet d'audit explique être venue chercher des réponses aux questions de ses clients afin de mieux les accompagner. Autre cas, celui de Pepsi qui utilise déjà la facture normalisée, mais doit encore finaliser l'intégration de son système informatique avec celui de la DGI. Selon Bazangika Didier, coordonnateur chef des projets de la réforme sur la facture normalisée, 94 entreprises ont été reçues dès la première journée sur 467 annoncées pour les 3 jours. Parmi elles, 48 sont venues spontanément et 20% n'avaient encore entamé aucune démarche de mise en conformité. Le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, assure que la priorité reste l'accompagnement, mais prévient que le bâton est dans sa main pour les contribuables qui ne se conformeraient pas à la loi. Il annonce par ailleurs l'extension prochaine des cliniques fiscales à plusieurs provinces du pays.
La réforme foncière entre dans une nouvelle phase en République démocratique du Congo. Après l'adoption du nouveau cadre juridique, les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre prennent part du 4 au 24 août à une session de formation organisée à l'École nationale d'administration, l'ENA. Près d'une centaine de participants venus de toutes les provinces du pays sont réunis pour renforcer leurs capacités sur la nouvelle législation foncière et améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. À travers cette initiative, les autorités entendent moderniser davantage l'administration foncière et restaurer la confiance du public dans ces secteurs stratégiques. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
La réforme des ressources humaines de l'administration foncière constitue l'un des piliers majeurs de la modernisation du service public et de la refonte globale du secteur foncier. Portée conjointement par les ministères des Affaires foncières et celui de la fonction publique, cette dynamique vise à assainir la gestion des carrières, à éradiquer les pratiques informelles et à professionnaliser les agents, comme l'a indiqué le secrétaire général aux Affaires foncières. À travers cette formation, l'École nationale d'administration attend contribuer à l'émergence d'une administration foncière compétente, a précisé le directeur général Tombola Mouké.
L'ambition qui est la vôtre, qui devrait avoir une ambition commune et de contribuer à l'émergence d'une administration foncière plus compétente, plus intègre, plus performante et davantage orientée vers le résultat.
De son côté, la ministre des Affaires foncières a souligné que cette session se propose de concrétiser les volets liés au développement du capital humain. On est Gilles Sélé.
ces formations de qualité pour pouvoir redorer l'image de l'administration des affaires foncières et surtout de donner un contenu à ces hommes et à ces femmes qui se battent fois sans moyens.
Les modules de cette formation intègrent notamment le management public, le leadership, la conduite du changement ainsi que l'éthique et la déontologie professionnelle.
Dans la province éducationnelle Maniema 1, les travaux de la revue annuelle provinciale ont démarré ce mardi 4 août. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur se penchent sur les bilans de l'année écoulée et les perspectives de la prochaine rentrée scolaire. Les échanges portent notamment sur l'évaluation des résultats enregistrés, la mise à jour de la carte scolaire ainsi que l'examen du plan d'action opérationnel pour l'année scolaire à venir. Ouvert par le ministre provincial de l'Éducation, ces travaux réunissent plusieurs responsables du sous secteur invité à participer activement aux assises afin de contribuer à l'amélioration du système éducatif dans la province. Nous écoutons Jacques Muto Balingene, directeur de la province éducationnelle Maniema 1. Il est au micro de Florence Kizalunga.
En fait, cette revue consiste à faire un bilan officiel servant à évaluer les résultats de notre sous-secteur en éducation dans la province de Maniema 1. Et comme assise technique, elle est orientée vers des résultats. Et la mission principale, c'est d'évaluer les performances du sous-secteur de l'éducation, mettre à jour la carte scolaire de notre province éducationnelle, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes, toutes les réformes qui ont été lancées par le niveau national. Dans le plan quinquennal, nous devons évaluer dans nos assises ces réformes. Mais aussi, c'est dans ce travail que nous allons valider notre PAO de l'année prochaine. Le thème qui a été donné cette année-ci, c'est l'éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. En fait, nous ne devons pas nous soustraire des innovations, puisque à l'heure du numérique, l'intégration de la technologie d'information et de communication, le TIC en sigle, est cruciale pour moderniser le système éducatif et préparer les élèves aux défis du 21e siècle. En fait, c'est un objectif stratégique qui vise à transformer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage tout en rendant l'éducation plus accessible et interactive.
L'épidémie d'Ebola poursuit sa progression dans l'est de la RDC. Dans un bulletin publié ce lundi 3 août, l'ONU alerte sur une situation jugée sans précédent. Alors que les moyens de riposte sont considérablement renforcés, les virus continuent de gagner du terrain dans plusieurs provinces. Extension des centres de traitement, surveillance accrue et forte mobilisation des partenaires humanitaires, la lutte s'intensifie pour tenter de freiner la propagation de la maladie. Benjamin Moudoumbi nous en dit plus.
Selon les Nations Unies, l'épidémie d'Ebola en RDC bat désormais tous les records. Déclarée le 15 mai dernier en Ituri, l'épidémie est devenue la plus importante jamais enregistrée dans le pays. D'après les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 3700 cas confirmés et près de 1600 décès ont été recensés au 30 juillet. Plus inquiétant encore, en une seule semaine, plus de 560 nouveaux cas et près de 300 décès ont été enregistrés. Un niveau jamais atteint depuis les débuts de cette flambée. Partie de Mongwalou, l'épidémie s'est déjà propagée à 5 provinces, dont l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, les Haut-Uele et la Tchoupo. L'Ituri concentre à elle seule près de 90% des infections. Face à cette accélération, la riposte change d'échelle. Avec l'appui des Nations Unies, un centre de traitement des 100 lits, le plus grand jamais construit en RDC pour Ebola, doit ouvrir cette semaine à Ituri. L'OMS a également renforcé les capacités de notre centre à Nizi, mais les défis reste immense. Conflits armés, déplacement des populations et forte mobilité autour des zones minières favorisent la circulation du virus. Près de 270 000 déplacés vivent actuellement dans des sites en Ituri. Les Nations Unies poursuivent leurs efforts sur le terrain pour rétablir l'accès aux soins.
À Kinshasa, pendant ces temps, l'accès aux toilettes publiques demeure un véritable défi pour de nombreux habitants. Dans plusieurs communes de la capitale, trouver les installations sanitaires adaptées relève parfois du parcours du combattant. Une situation qui affecte le quotidien des usagers et soulève des questions sur la disponibilité et l'aménagement des infrastructures publiques. Face à ce constat, les préoccupations se multiplient et les débats sur l'assainissement urbain refait surface. Le point avec Jean-Marie Kanaïmba.
Les constats invisibles sur plusieurs grandes artères de la capitale, du boulevard du 30 juin à la Gombe, au boulevard Triomphal, Sindwe et Lumumba, jusqu'au Ropengaba. Les toilettes publiques sont rares, voire inexistantes à certains endroits. Cette insuffisance met de nombreux usagers dans une situation d'inconfort, notamment les passagers de transport en commun, les commerçants et les personnes contraintes de passer plusieurs heures loin de leur domicile.
En tout cas, problème, il y a toilettes.
Le problème des toilettes à Kinshasa est très compliqué. Il n'y a pas de toilettes. On n'arrive pas à comprendre ceci. Système-là, alors que l'État devrait prendre ses responsabilités en construisant des toilettes publiques pour aider les gens en circulation. Il faut que les services d'hygiène s'impliquent aussi. J'étais sorti vers la ville et j'ai senti les besoins, mais par manque de toilettes, j'ai fait dans les habits.
Face à cette réalité, de nombreux habitants plaident pour la construction et la multiplication des toilettes publiques dans les zones à forte fréquentation. Selon eux, l'installation de ces infrastructures constitue non seulement une question de confort, mais aussi de santé publique et de salubrité urbaine.
Et puis, le monde célèbre ce 4 août la journée mondiale de la bière. Mais à Kananga, dans la province du Kasaï central, cette célébration a un goût particulier. Depuis l'arrêt des activités de l'Unibra, la bière est devenue plus rare sur les marchés locaux et son prix a considérablement augmenté. Pour s'approvisionner, les commerçants sont désormais contraints de faire venir les boissons depuis d'autres provinces. Résultat, une bouteille de 65 centilitres se négocie entre 6 000 et 8 000 francs congolais, un tarif que beaucoup de consommateurs jugent excessif. Face à cette hausse de prix, certains se rabattent sur des boissons fortement alcoolisées, souvent moins coûteuses et plus faciles d'accès. Une tendance qui préoccupe les professionnels de santé en raison des risques liés à la consommation abusive d'alcool. Reportage d'André Katendenga Lamouloumé.
Au bistrot Canal de Suez, dans la commune d'Indécha, à Kananga, les clients se font de plus en plus rares. Derrière le comptoir, les bouteilles s'accumulent en attendant les acheteurs. Ici, une bouteille d'Enkoi se vend à 6 000 francs congolais, tandis que celle d'Entembo coûte jusqu'à 7 500 francs. Adolphe Mouteba, responsable de l'établissement, exprime son inquiétude.
Les prix de la bière augmentent parce qu'on ne la produit pas dans notre province. Nous allons acheter à Chikapa et nous payons les transports.
Face à cette flambée de prix, de nombreux consommateurs revoient leurs habitudes. Certains délaissent la bière au profit des boissons fortement alcoolisées, notamment le chichampa, vendu à un prix plus accessible.
Les prix de la bière a augmenté, mais nous n'avons pas assez d'argent. Nous avons aussi les charges de la maison. Voilà pourquoi nous buvons du vin des palmes ou soit de l'alcool.
Cette évolution préoccupe toutefois les professionnels de santé. Ils alertent sur les risques liés à la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées. Selon eux, leur usage abusif peut favoriser l'apparition des problèmes de santé, accroître les risques d'accident et entraîner des comportements à risque. Kananga, André Katendinga Lamouloumé, Radio Okapi.
L'insécurité continue de perturber les activités minières dans les territoires de Mambasa en Ituri. Dans plusieurs carrés miniers, les orpailleurs et leurs familles quittent progressivement les zones d'exploitation par crainte de leur sécurité. Beaucoup abandonnent également leurs champs, compromettant ainsi leurs moyens de subsistance. Cette situation commence à entraîner de répercussions sur l'économie locale avec un ralentissement des activités et une baisse des échanges dans plusieurs localités concernées. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Depuis plusieurs jours, des orpailleurs quittent les carrés miniers de Kilimamunza, Biondo, Pakwa, Mateda notamment, situés dans le territoire de Mambasa. Selon des sources locales, ces déplacements sont motivés par les opérations militaires en cours dans la zone et la crainte de nouvelles violences à pied ou à moto. Les exploitants artisanaux abandonnent les sites miniers en apportant une partie de leurs biens. Beaucoup rejoignent Mambasa Centre ou d'autres localités jugées plus sûres. Cet exode perturbe aussi les activités agricoles. Contraintes de fuir, plusieurs familles ont laissé derrière elles leurs champs, réduisant ainsi l'approvisionnement des marchés locaux. Conséquence, les prix de certaines denrées alimentaires, notamment le haricot, sont déjà en hausse. Une mesurette d'haricot dont les prix est passé de 1200 à 1500 voire 1800 francs congolais. Face à cette situation, les acteurs locaux appellent les autorités à renforcer durablement la sécurité afin de permettre aux populations de regagner leur village et de reprendre leurs activités agricoles et économiques. L'administrateur du territoire de Mambasa n'a pas souhaité pour l'instant répondre à notre sollicitation. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Capi.
Le mouvement citoyen lutte contre les antivaleurs RDC alerte les autorités sur la multiplicité d'actes d'insécurité dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Dans un communiqué publié ce mardi 4 août 2026, ce mouvement via sa cellule de communication indique avoir comptabilisé en 4 jours au moins 4 incidents sécuritaires ayant coûté la vie à des civils. Le plus récent est survenu dans la nuit de lundi à mardi lorsque des hommes armés ont tué un jeune et blessé un autre après avoir tenté de les dépouiller de leur téléphone au quartier Kabindula. Michael Kiza, l'un des responsables de la communication, invite les autorités à prendre les dispositions appropriées afin de mettre la population à l'abri de ces abus. Il est joint par Ronéline Tibonera.
Cette situation est inacceptable et appelle une réaction immédiate des autorités compétentes. Cette dénonciation fait notamment suite à plusieurs événements tragiques survenus ces derniers jours. La découverte du corps sans vie d'un homme à Muramvya dans les quartiers Mulongo et Kasienga. C'était le 10 août. L'attaque par balle contre Madame Aimée Vumilia, âgée de 31 ans et mère de 5 enfants dans les quartiers Kavimvira, le 1er août. Ainsi que la fusillade survenue dans la nuit du 3 août 2026 aux environs de 21h dans les quartiers Kabindula où deux jeunes garçons ont été pris pour cible par des hommes armés. L'un d'eux est décédé sur place tandis que l'autre est grièvement blessé a été évacué vers un établissement hospitalier pour recevoir des soins. Les MCLA RDC rappellent que la protection des personnes et de leurs biens est une obligation fondamentale de l'État.
Actualité internationale.
Au Sénégal, trois chroniqueurs proches du PASTEF comparaissent ce mercredi 5 août devant la justice. Lamine Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba sont poursuivis pour offense au chef de l'État après une vidéo diffusée sur TikTok dans laquelle ils priaient pour que le malheur et la mort frappent celui qui a trahi le projet du PASTEF, une formule largement interprétée comme visant Bassirou Diomaye Faye. Détenus depuis leur arrestation fin juillet, ils sont jugés en urgence.
L'invité.
Le débat autour du dialogue national inclusif continue d'alimenter les réactions en RDC. Le 17 juillet dernier, les responsables des principales confessions religieuses du pays ont été reçus par le président Félix Tshisekedi. À l'issue de cette rencontre, ils ont annoncé que le chef de l'État avait réaffirmé son accord pour la tenue d'un dialogue national inclusif avec pour objectif de dénoncer l'agression dont le pays est victime et de renforcer la cohésion nationale. Cette question a été largement abordée lors de l'émission Dialogue entre Congolais diffusée hier. Écoutons cet extrait recueilli par Donamadi Mbambaya.
Joseph Nkoy, nous sommes justement à l'heure où nous devons commencer à conclure cette émission et vous gardez la parole et vous la prenez le premier pour faire ses conclusions. Est-ce que vous pensez qu'au bout du compte, le président de la République pourrait, le moment venu, où les décideurs, à la dernière minute, pourraient ouvrir les portes à tous les débats possibles et à tous les acteurs possibles pour que peut-être, cette fois-ci, une dernière fois pour toutes, on exorcise tous les problèmes avec tout le monde, y compris ceux qui sont pointés du doigt aujourd'hui, pour faire ce dialogue? Et est-ce que vous pensez, dernière question, que ce dialogue pourra être organisé le plus tôt possible? Nous ne savons pas combien de jours, combien de mois, mais le plus tôt possible.
Oui, répondant à votre dernière question, pas quand est-ce que le dialogue sera organisé, c'est que le président de la République a levé le pas à convoquer le dialogue. Mais ne faites pas penser que le fait que le président de l'agenda des impératifs nationaux doit... Pourquoi? Parce que souvent, entre guillemets, souvent discuter ou trouver un cadre qui puisse permettre son blanchiment. Non, c'est vrai, il y a une part les institutions de la République, mais c'est vraiment d'autres priorités. Et le moment venu, le dialogue
aura lieu.
Ceux qui ont le droit vont y répondre. Auteurs de massacres commis de notre pays doivent répondre. Aujourd'hui.
Merci à vous. Merci à vous, Joseph Nkoy. Ferdinand Kambere, avocat, oui. Secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila et membre du Front commun pour le Congo. Le dialogue a été annoncé par les confessions religieuses il y a d'ici quelques jours, 3 semaines. Et pour le moment, des choses officielles tardent à être prononcé. Vous croyez toujours en ce dialogue et est-ce que vous pensez que au finish, le président de la République et les derniers décideurs pourront ouvrir la porte à tout Congolais qui voudra participer à ce dialogue.
Non, je vous ai dit au début de l'entame de cette émission que le dialogue, c'est une voie royale qui est recommandée par le Conseil des Nations Unies. Et ces gens cessent de penser que lorsque nous parlons de dialogue, nous sommes entrés ici de commander des postes.
Mais, merci.
Nous voyons la situation du pays.
Merci, Ferdinand Kambere.
Les résolutions du Conseil des Nations Unies et le dialogue a toujours été prôné comme un mécanisme de résolution de conflits pour ramener à la paix, pour aller vers la démocratie. Ce que ne voit pas Félix, ce que ne voit pas tous ces gens qui ne viennent que répéter ce qui est dans sa tête. Or, ce n'est plus à son niveau. Ici, nous parlons de la RDC qui est reconnue par l'ONU, qui est reconnue par l'OIA et qui est soutenue par toutes les résolutions de la communauté internationale.
Merci, Ferdinand Kambere. Dieudonné Bolende Tenge, secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et membre de la coalition C64. Quelques temps sont passés. Vous avez dit que peut-être qu'il fallait se temps passé là. Est-ce que vous pensez que les choses vont s'activer très rapidement pour concrétiser, parce que c'est ça l'objectif?
En tout cas, les Congolais qui nous écoutent attendent que nous allions à un vrai dialogue, pas à un truc théâtral. Les compatriotes qui sont aux commandes des affaires de l'État, qui sont au pouvoir, doivent savoir qu'ils n'ont pas l'éternité devant eux pour pousser les choses dans la bonne direction et que la patience du peuple congolais a aussi des limites. Si les 15, on reste toujours à tourbillonner dans la parlotte, nous allons en tirer les conséquences qui s'imposent et relancer la mobilisation populaire.
Vous pouvez encore suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Ainsi prend fin cette édition du Journal du Matin préparée pour vous par Richard Junior Kamunga et mise en onde par Alain Goy.